pour d'abord ces deux messages. Premièrement, sur la Journée mondiale de la liberté de la presse, et puis, bien sûr, à l'occasion de la disparition de Papa Wemba, le roi de la rumba, comme il le dit, un message qui était adressé par la directrice générale donc de l'UNESCO. Cela ouvre tout droit, nous amène tout droit à la deuxième partie de cette conférence de presse, la partie questions-réponses. Je vois que bien que l'assistance ici à Kinshasa soit décimée à raison justement de la disparition de Papa Wemba, pas mal de journalistes ont tenu à répondre présents à cette conférence de presse. Nous vous en remercions. Nous allons rester ici pour prendre une question. Je vois une main qui m'a l'air insistante, mais je ne sais pas si elle est vraiment insistante. Mais première question, présentez-vous et annoncez les couleurs. Alors.
Merci, c'est Isaac Ngwenza pour le compte de Congo Opportunities Media. Je pose ma question à Monsieur Abdourahmane Diallo. J'ai deux petites questions à lui poser. Premièrement, c'est en rapport avec l'accès à l'information pour tous les journalistes. Je pense qu'il y a des textes aussi qui reconnaissent cela. Mais dans la pratique, à Kinshasa, c'est très difficile d'accéder à l'information, même parfois quand il y a des manifestations organisées par le gouvernement. Alors comment l'UNESCO pourra influencer à ce que les choses changent? Ça, c'est la première question. La deuxième, lors du mot de circonstance à l'occasion de funérailles de Papa Wemba, le ministre de la Culture et des Arts du gouvernement congolais, M. Baudouin Banza Moukalaï, a émis les vœux d'ouvrir un dossier à envoyer à l'UNESCO pour que les œuvres artistiques de Papa Wemba puisse être considéré comme un patrimoine mondial. Quel est votre point de vue là-dessus? Merci.
Merci, Monsieur Diallo. Je rappelle aux collègues journalistes une question, ça devrait suffire pour permettre aux gens de démocratiser la parole. Donc, il faut y penser. Allez-y, Monsieur Diallo.
Merci, cher ami. Deux questions. Donc, l'accès à l'information par tous les journalistes et à tous les journalistes, nous le défendons tous ensemble, l'UNESCO et l'ensemble des partenaires du système, l'ensemble des agences du système des Nations Unies et des partenaires. Nous saluons à cet égard la loi. Vous savez que la loi est passée au mois de novembre dernier hein, pour l'accès à la liberté de l'information. Et nous essayons de nous assurer dans les actions que nous menons avec les différentes entités que j'ai citées tantôt, hein, l'UNPC, l'Observatoire des médias et les différentes associations et entités qui travaillent dans le domaine des médias, à ce que cet accès soit effectif et qu'il n'y ait pas de discrimination et de différence entre un journaliste qui vient d'une autre capitale, d'un autre continent, lorsqu'il essaie d'accéder à l'autorité ou à une institution internationale ici pour disposer de l'information. Ces différentes activités que nous menons au quotidien, l'UNESCO dit directement avec le ministère des médias ou avec les associations, les ONG, tant au niveau des lois, où on essaie aussi d'accompagner, qu'on s'assure qu'au niveau législatif, qui est donc un environnement qui protège et qui garantisse cet accès, mais au niveau du quotidien aussi, dans le renforcement des capacités des acteurs pour pouvoir accéder aux nouvelles surfaces aussi qui vous offrent l'information, pour les aider aussi à se doter en équipement pour pouvoir disposer et traiter l'information. Et ça, ce n'est pas que l'UNESCO. L'UNESCO est l'agence qui a ce mandat pour la liberté de l'information, mais c'est l'ensemble du système des Nations Unies qui agit au quotidien dans ce domaine, et nous sommes ici avec la MONUSCO, vous le savez, qui est là au quotidien avec vous pour ces activités. Deuxième point, ce n'est pas une interpellation, l'invitation du ministre de la Culture et des Arts hein, par rapport à l'inscription éventuelle des œuvres artistiques du regretté Papa Wemba. En fait, il y a deux éléments. Le ministre a évoqué la question de l'inscription de la rumba comme élément immatériel, donc du patrimoine de l'UNESCO. En fait, il souhaite que cet exercice soit renforcé parce que c'est, le processus est déjà en cours pour que la rumba soit en fait inscrite comme élément immatériel au niveau de la région. La RDC, le Congo-Brazzaville et même l'Angola vont introduire et soumettre la candidature de de la rumba comme élément immatériel du patrimoine de l'humanité. Mais c'est en bonne voie, il y a juste un exercice technique qui doit être fait ici par le ministère de la Culture. Il s'agit de faire des inventaires, de commencer par un exercice d'inventaire, après le processus suivra. Ce dossier est soutenu par plusieurs pays, voire avec des pays aussi d'Amérique latine aussi qui appuient l'inscription de la rumba comme patrimoine de l'humanité.
Nous restons ici toujours pour prendre une question sur la droite. Passez le micro, oui, allez-y.
Oui, Théodore Ngandou, au compte de Télé7. Monsieur Charles, vous avez parlé dans votre compte rendu sur la composante. Vous avez parlé de la mission de l'assistance électorale des Nations Unies qui est présente au pays. Cette mission est présente au pays depuis plus d'une semaine. Peut-on savoir aujourd'hui le bilan qu'elle a dû faire du processus électoral et comment compte-t-elle débloquer ces processus qui semblent être bloqués parce que rien ne marche jusque-là?
La mission n'est pas terminée, la mission est en cours, elle s'achève le 10 mai prochain. Il faut savoir que c'est une mission d'assistance électorale à la CENI. Donc, il faut attendre au terme donc de son séjour. La mission va sans doute organiser une rencontre avec la presse ou en tout cas passer son bilan, le bilan de son séjour au représentant spécial Monsieur Sidikou, qui pourra l'apporter donc à votre connaissance. Mais pour l'instant, c'est vraiment, comme je l'ai dit, dans le cadre de cette résolution qui demande la 2277, qui demande donc à la MONUSCO d'apporter un soutien technique, logistique, non seulement, à l'adaptation ou à la relecture du fichier électoral, mais aussi à tout le processus électoral qui est engagé par la CENI. Je crois que d'un moment à l'autre, en tout cas le 10 mai, c'est pour bientôt. Donc on aura effectivement le bilan de leur séjour. Comme j'ai dit, pensez plutôt à l'assistance technique que les Nations Unies ont promis d'apporter dans le cadre de cette résolution. Et c'est sous cet angle qu'il faut voir un peu leur présence ici. Nous allons tout droit maintenant à Goma pour prendre deux questions. Goma, la salle est plutôt remplie, ils sont pas au cœur de l'actualité comme ici dans la capitale où c'est plus l'actualité est plutôt la rumba congolaise, hein, comme on le disait tout à l'heure. Mais nous restons donc à Goma pour prendre deux questions.
Oui, moi c'est Christian Mapendano de Radio Okapi. Encore un autre massacre hier à Beni, après le kidnapping de dimanche, même les massacres. Qu'est-ce qui a manqué alors que la coopération a repris entre les FADC et la MONUSCO? Et qu'est-ce qu'il faudra enfin pour trouver une solution durable et unique à l'insécurité dans le territoire de Beni?
Colonel Martin, c'est peut-être à vous de donner quelques éléments de réponse et ensuite, si nécessaire, je rebondirai, mais je vous laisse prendre cette question. Merci.
Merci beaucoup. Merci, Christian. Tout d'abord, nous présentons nos condoléances aux victimes de l'attaque d'Iringeti d'hier. Et nous rendons nos hommages aux victimes d'attaque d'Iringeti d'hier et nous présentons nos condoléances à leurs familles respectives. C'est vraiment un événement malheureux. Au moment où les FADC et la MONUSCO, la force de la MONUSCO travaillent ensemble, au moment où la force de la MONUSCO et les FADC sont engagés dans la lutte contre ces présumés éléments de l'ADF afin de protéger la population civile. De quoi s'agit-il? D'abord, il y a l'incident, l'attaque du dimanche à Kamungu contre la position des FADC où 4 civils ont trouvé la mort et 2 ADF ont été tués. Dans la soirée d'hier, les ADF sont revenus attaquer Luna au nord-ouest d'Iringeti et la ville d'Iringeti. Au cours de l'attaque, il y a 16 civils qui ont été tués 16 tués, 7 ont été blessés avec plusieurs maisons brûlées et un déplacement important de la population civile de la localité vers la province de l'Ituri. Actuellement, le commandant adjoint de la force de la MONUSCO est sur le terrain. Il est allé très tôt ce matin. Il est actuellement à Irenti pour pouvoir prendre disposition afin que de pareilles situations ne se retournent plus. Depuis le 23 mars dernier, la force de la MONUSCO soutient les FADC dans des opérations contre les prisonniers ADF. Dans ce cadre, il n'y a pas ce jour-là où les hélicoptères d'attaque de la MONUSCO et l'artillerie n'interviennent pas contre les positions de l'ADF. Il y a un travail sérieux qui se fait à la base et jour et nuit, nos troupes appuient les FADC dans la jungle contre les populations de l'ADF. C'est vraiment malheureux. Nous attendons le retour du commandant adjoint de la force pour avoir une vue claire de la situation qui s'est produite à Irenguéti. Actuellement, les opérations sont en cours. Les opérations contre les ADF sont en cours. Et nous appelons les populations civiles que nous protégeons, les populations civiles que les FADC et la force de la MONUSCO protègent à nous aider dans le renseignement. Il faudrait qu'ils collaborent avec nous, parce que nous avions mis plusieurs semaines nos hélicoptères d'attaque et nos artilleries contre ces positions de l'ADF qui, à un moment donné, ne faisaient plus mouvement. Mais cette surprise, c'est que ces éléments sont venus attaquer. D'où viennent-ils? Donc nous demandons à la population de collaborer avec nous, de nous renseigner sur les positions de ces présumés éléments, s'ils traversent leurs villages, s'ils traversent leurs champs, de pouvoir nous le dire, puisque ce n'est qu'ensemble avec eux, population du territoire de Bénin et environ, que nous pourrions réellement les protéger. Sans les aides, cela nous serait très difficile. S'ils collaborent avec des présumés éléments, ce serait très difficile pour nous, force de la MONUSCO et FADC, de pouvoir les protéger. Merci beaucoup.
Voilà, nous allons peut-être demander à Madame Florence Marchal ici de nous parler un peu des conséquences humanitaires de ces dernières attaques.
Oui, tout à fait. Ces nouvelles attaques touchent des populations civiles qui sont déjà vulnérables. On recense plus de 130 000 personnes déplacées internes dans le territoire de Beni, la grande majorité d'entre elles se trouvant justement sur l'axe Beni-Eringeti. Alors, outre la menace que représentent les groupes armés, on l'a vu encore avec les attaques de la nuit dernière, la population fait face aussi à des problèmes d'insécurité alimentaire, d'accès limité aux soins, à l'éducation et la promiscuité. Alors, la communauté humanitaire depuis des années est mobilisée pour apporter une assistance à ces populations civiles, une assistance au quotidien. Mais là, vraiment, au moment où le sommet humanitaire mondial va se tenir à Istanbul à la fin de ce mois, il est important d'effectuer un plaidoyer pour l'identification et la mise en œuvre de solutions à long terme qui permettront de diminuer la vulnérabilité de ces populations et afin de favoriser leur autonomisation. Il est important de souligner que ces communautés, la survie de ces communautés dépend essentiellement de l'agriculture.
Nous restons à Goma pour prendre une autre question. On n'entend pas de Goma. Le son n'est pas bon. Est-ce que vous pouvez régler le niveau du son, s'il vous plaît, à Goma? Le son est toujours faible à Goma. Nous allons peut-être revenir ici en attendant que les techniciens... Ah bon, il y a un autre micro, dit-on. Allez-y.
Ça va, Charles. Ça va. Oui, c'est Daniel, le micro pour vision.
Le son n'est toujours pas très bon à Goma. Nous allons revenir, je suis désolé, ici à Kinshasa pour continuer cette conférence de presse en attendant qu'on règle les problèmes de son à Goma. Kinshasa, sur la gauche, s'il vous plaît, allez-y. Vous avez le micro, je crois. Allez-y.
Symphorien Katumba, pour le compte de l'explorateur, j'ai une préoccupation à l'intention Monsieur le directeur Charles Mambara. Il y a un temps mort qui se pointe à l'horizon de ce grand forum du dialogue inclusif que le facilitateur Adem Kodjo a bien amorcé pour constituer le comité préparatoire du dialogue. La MONUSCO joue un grand rôle concernant ce processus en RDC. Pourriez-vous nous expliquer le réseau et le bien fondé de ce temps mort? Je vous remercie.
Peut-être que les uns et les autres ne sont pas toujours bien informés de ce qui se passe. Il y a beaucoup de contacts, il y a beaucoup de réunions, il y a beaucoup de rencontres à tous les niveaux. Non seulement c'est vrai, Monsieur Edem Kodjo qui mène, j'allais dire, ce train de discussion, ce train de rencontres, et j'allais dire sur les charbons ardents, mais aussi Monsieur Maman Sambo Sidikou qui est le représentant spécial et qui a l'obligation, dans la mesure où c'est la résolution 2277 qui le demande, d'apporter son soutien de bons offices à tout ce processus du dialogue congolais. Il y a d'importantes rencontres qui se tiennent au quotidien, chaque semaine. J'ai été témoin de plusieurs rencontres entre, en tout cas, Monsieur Sidikou et différents acteurs de la classe politique ici à Kinshasa. Une fois de plus, ces acteurs politiques sont de tous bords. Tout cela pourquoi? Pour appuyer les efforts engagés depuis le début, en tout cas par Monsieur Edem Kodjo de l'Union africaine. Vous savez que l'ensemble de la communauté internationale se tient comme un seul homme pour appuyer cette médiation de l'Union africaine. Et nous pensons que malgré que tous les problèmes qu'il y a, il y a des avancées. Peut-être pas aussi vite que nous le souhaitons en réalité, mais il y a des avancées. Certains acteurs qui étaient réticents pour ce dialogue ont commencé à adhérer à ce processus. D'autres encore hésitent à venir, mais il y a beaucoup d'efforts qui se passent et nous espérons qu'au bout du compte, nous allons avoir le maximum d'acteurs politiques, en tout cas autour de cette réflexion qu'est le dialogue politique. C'est vrai que le comité préparatoire du dialogue traîne à se mettre en place, mais une fois de plus, nous avançons lentement, mais je dirais sûrement, vers en tout cas la tenue de ces assises-là. Voilà un peu ce que nous pouvons dire ici. Nous restons ici à Kinshasa avant de repartir à Goma. Une question sur la droite. Je sais que les collègues de Radio Okapi vont nous quitter d'un moment à l'autre.
Merci.
Parce que c'est l'heure du journal. Donc,
Flavien,
c'est à vous pour la suite pour une question.
Pour le compte de Planète Avion. Monsieur le représentant de l'UNESCO, je reviens sur la publication dernière des ONG internationales suite à la journée internationale de la presse. La RDC est placée au moins dans des 50e, quelque chose comme ça. Quelle est la recommandation aujourd'hui que vous pouvez formuler auprès des autorités congolaises suite à cette publication? Merci.
Merci. Je pense que vous faites référence au rapport ou l'évaluation d'Amnesty International. Je pense qu'il y a un classement comme ça se fait tous les ans et je pense qu'il y a deux places qui ont été perdues par la RDC. Les recommandations, je reviens sur ce que je disais en propos préliminaire, nous accompagnons les autorités et l'ensemble des institutions qui travaillent dans le domaine pour nous assurer déjà qu'au niveau vraiment législatif, qu'il y a un environnement qui soit favorable à l'exercice de la liberté de la presse. C'est le premier travail que nous devons faire sans arrêt. Il faut qu'il y ait un cadre législatif et que nous ayons le dialogue avec les autorités qui sont en charge de ces questions et les différentes entités. Et ça, nous le menons, nous, l'UNESCO, et l'ensemble des partenaires au travers de différentes plateformes de dialogue et d'exercice. C'est ainsi, par exemple, que nous accompagnons le pays dans les initiatives qui sont liées aux problématiques de la dépénalisation des délits de presse et de la mise en place d'une législation
législation en faveur des médias communautaires et associatifs et aussi de la révisitation des cadres juridiques des médias congolais dans son ensemble. Donc là, c'est pour insister sur cet appui qui est fait au niveau des cadres du cadre législatif. Maintenant, au quotidien, nous suivons avec beaucoup d'attention. Nous travaillons avec vous, les différentes ONG, dans le cadre du monitoring quotidien de cet exercice du journalisme qui n'est pas facile, et nous avons pour rôle de vous écouter, de voir, de témoigner, de transmettre les informations parfois à qui de droit, de dialoguer aussi de temps en temps avec les entités et les personnes aussi habilitées à faire avancer ces questions. Vous le suivez, la directrice générale condamne de façon régulière quand il y a un acte grave, une répression contre un journaliste. Nous transmettons les informations aux différentes entités qui font et qui établissent ces rapports aussi régulièrement, qui ont pour but d'éclairer l'opinion publique et l'ensemble des professionnels de cette situation. Et c'est le rôle aussi des journées. La journée internationale nous permet à ce moment de faire le point, de dire qu'est-ce qui a bien marché pendant une année, qu'est-ce qui a moins marché et comment nous pouvons tous ensemble améliorer les choses. Et vous savez, au niveau de la presse, vous avez de la chance, il y a 4 journées internationales. Vous avez le 13 février, la journée mondiale de la radio, vous avez le 3 mai, la journée mondiale de la liberté de la presse, et cher ami, j'avais oublié de vous dire qu'il y a une nouvelle journée dont la première édition sera le 28 septembre, c'est la journée internationale pour l'accès à l'information, et la 4e journée, la journée du 2 novembre, journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Donc ça nous donne l'occasion, 4 fois dans l'année, de nous retrouver et de faire ce point pour partager, témoigner et essayer d'améliorer les conditions de votre exercice ici sur le terrain. Merci.
Voilà, nous allons tenter de repartir à Goma. Nous pensons que les problèmes de son sont réglés à présent. Est-ce qu'on peut avoir une première question et ensuite on prendra une deuxième question à Goma? Goma?
Oui. Oui, Daniel Michombero pour Vision Chala FM. Notre question s'adresse directement au représentant de l'UNESCO, M. Diallo. Le 3 mai, c'est une journée mondiale de la liberté de la presse. S'il existe exactement une loi garantissant la liberté de la presse en RDC, les journalistes sont souvent victimes des assassinats, des tueries, des kidnappings. Est-ce que nous pouvons savoir où sommes-nous avec les enquêtes diligentées par des appareils judiciaires? Merci.
Merci cher ami pour cette question, mais j'allais vous reprendre un peu sur la façon dont vous avez émis votre question. Vous avez dit, vous avez évoqué souvent crime. Vous voyez, c'est là que le travail commence entre nous. Il faut qu'on soit précis. Souvent, qu'est-ce que ça veut dire souvent? Ça évoque quelle période, quelle année. Il faut que vous soyez précis sur ce que sur ce que vous dites ou sur l'information que vous voulez passer, sur le fait que vous voulez dénoncer. C'est là que commence aussi l'un des grands travaux, celui du professionnalisme, celui de l'éthique, celui de la déontologie, celui de la vérification des informations aussi avant leur diffusion. Revenir à votre question, nous avons, j'évoquais tantôt, nous faisons ce travail de monitoring, nous voyons ce qui se passe sur le terrain. Et chaque fois aussi qu'il y a un dossier qui est en cours, nous essayons de nous assurer en tout cas qu'il est traité. Qu'un processus aussi judiciaire qui est en cours pour faire des enquêtes, pour condamner et voir la suite de qui a porté à tel et tel dossier ou telle et telle condamnation. Je ne peux que revenir sur ce que j'avais dit tantôt, hein, renforcer les cadres législatifs, l'exercice de veille, le partage des informations, les bonnes informations précises et le travail de dialogue que nous devons mener au quotidien avec les différentes entités qui peuvent aider, que ce soit le gouvernement, le ministère en charge, de la communication et des médias, les différentes entités qui sont en charge de la régulation, et les autres ONG ou associations aussi qui travaillent dans le cadre du monitoring et puis de la défense de la liberté de la presse.
Nous restons à Goma pour une autre question.
Merci beaucoup, c'est Patrick Félix Abel et Monsieur Diallo. La situation de la liberté de la presse en République démocratique du Congo, je vous pose cette question. Comment vous évaluez cette situation de la liberté de la presse en RDC? A-t-elle régressé ou a-t-elle avancé? Si j'essaie de faire ma propre lecture, je constate que la liberté de la presse au Nord Kivu, surtout avec les assassinats des journalistes, il y a Chamoine qui a été assassiné, les bourreaux courent toujours, il y a quelqu'un d'autre de la RTNC fusillé, sa jambe amputée. On réduit des chaînes de télévision au silence parce qu'ils affichent certaines tendances. Alors, la simple question, elle est là, comment vous analysez la situation? Elle a régressé ou elle a avancé? En bref.
Votre verdict, Monsieur Diallo?
Mon verdict, si je m'en tiens à ce que nous disions tantôt par rapport au rapport qui a été fait par cette entité qui a fait que la RDC a perdu de place et qu'il y aurait donc un constat de négatif en tout cas au cours de cette dernière année. Cependant, cher ami, il faut saluer quand même la richesse et la diversité et aussi nous sommes là, nous dialoguons, vous avez la parole, vous pouvez dire ce que vous voulez et ce n'est pas partout hein, que nous pouvons jouir d'une telle liberté ou aussi bénéficier d'un espace d'expression. Par rapport aux différents cas que vous avez évoqués tantôt, je n'y reviendrai pas en détail sur les uns et les autres. Certains font l'objet actuellement de dossiers au niveau judiciaire. Chaque fois, en tout cas, qu'il y a un acte contre les journalistes, nous les condamnons. Nous essayons déjà d'avoir les bonnes informations et nous les condamnons et nous essayons de nous assurer, ainsi que je le disais tantôt, dans le dialogue que nous devons entretenir avec les différentes entités qui sont susceptibles et qui ont en charge ces questions, de faire avancer les choses, faire avancer un dossier, plaider en faveur de tel ou tel cas. Il y a les cadres qui sont disponibles et que nous utilisons, que ce soit l'UNESCO, la MONUSCO, ici même le fait au quotidien.
Voilà, merci. Retour ici à Kinshasa pour une question. Diana, on reste à Goma alors. Goma, une dernière question peut-être.
Encore.
Goma, pas de question. Je vois une main à Goma là. Allez-y.
Oui, c'est Daniel Michombero qui revient. La question s'adresse à Charles Bambara. Charles, la résolution 2277 donne à la police MONUSCO la mission de la protection civile, les soutiens au processus électoral et j'en passe. Quelles sont les stratégies mises en marche pour protéger les civils au Nord Kivu en général et à Beni en particulier après 18 personnes tuées selon nos sources par les ADF depuis ce matin et surtout pendant la période électorale? Merci.
Vous savez, on ne cesse de le répéter ici lors de différentes conférences de presse, la sécurité des populations revient en premier lieu aux forces de sécurité de la RDC, donc congolaise, qui sont bien entendu appuyés par non seulement la police de la MONUSCO, mais aussi par donc la force elle-même de la MONUSCO, donc les militaires de la MONUSCO. C'est un travail conjoint que nous faisons. C'est un travail, j'allais dire, de coopération, de soutien sur le terrain que nous faisons. Et à l'heure actuelle, comme le colonel le disait, nos forces sont engagées aux côtés des FARDC contre les ADF qui viennent de commettre une énième barbarie, si on peut le dire ainsi, contre les populations civiles. Vous savez qu'au niveau de Béni, il y a ce que la police des Nations Unies appelle la SOLIB, qui est un peu cette mission, cette opération de police en relation d'ailleurs avec la PNC, qui est menée depuis ces deux dernières années pour préserver justement la paix et la sécurité au niveau de Béni, pour garantir aux populations leur sécurité. Cette mission se poursuit. J'en ai donné un peu quelques éléments du bilan ici tout à l'heure, au début de cette conférence de presse. Et nous allons continuer à poursuivre cette opération. Cette opération a quand même donné des résultats à Béni, de telle sorte que le commandant, le commissaire de la police des Nations Unies, ici donc à la MONUSCO, veut faire de cet exemple de Béni, veut répercuter ça dans d'autres villes. Nous allons essayer de voir où est-ce que nous pouvons répercuter cet exemple, pour toujours dans l'objectif cardinal de garantir la sécurité, la protection des populations que nous demandent les différentes résolutions du Conseil de sécurité d'ailleurs. Voilà un peu ce que je veux vous dire. C'est un travail conjoint, force de sécurité nationale donc de la RDC, force de la MONUSCO, qui se mène de façon difficile, c'est vrai, mais que nous continuons hardiment sur le terrain afin d'arriver à bout, en tout cas, de ces différents acteurs, groupes terroristes qui perturbent un peu la quiétude des différentes populations. Voilà, c'est tout aujourd'hui pour cette conférence de presse. Merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine.